Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cine au Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais fait mystère de son affection et de son attachement profond aux univers et aux ambiances de John Carpenter, mythique, iconique, mettez le superlatif que vous voulez, il lui ira sûrement. Si Big John a délaissé les films pour la musique, son héritage lui est bien présent, pas toujours pour le meilleur, car s'il est très souvent copié, il n'est évidemment jamais égalé, loin s'en faut, notamment lorsqu'il s'est agi de donner des suites à ses films. À ce titre, l'exemple d'Halloween est un des plus parlants, la saga, si j'ose dire, des Michael Myers, commençant par un chef-d'œuvre et aboutissant sur un empilement de gros n'importe quoi, le climax de cette débauche de débilité étant sans doute Résurrection avec Busta Rhymes, parce que pourquoi pas après tout, bordel de merde. Bref, autant vous dire que nous n'étions que très moyennement excités par l'idée d'un énième retour de Myers sur grand écran, mais qu'on y est allé quand même, et que le trio de dangereux psychopathes réunis ici à l'antenne Paris va vous dire tout le bien ou tout le mal qu'ils en ont pensé. Ces trois fous dangereux, ce sont Arnaud Bordas, salut Arnaud.
Salut Thomas.
Alexandre Herbeau, salut Alex.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et évidemment, on prendra le temps de fouiller au passage un peu dans la saga Halloween et d'évoquer les film précédent, c'est Nos Ciné, épisode 157, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Mais commençons par le tout dernier qui, méga surprise, s'appelle Halloween et se place directement dans la suite de l'original de 78, nous embarquant donc 40 ans après sur les traces de Laurie Strode, incarnée une nouvelle fois par la seule, l'unique Jamie Lee Curtis, qui se retrouve encore face à Michael Myers, tout juste évadé de l'asile où il était enfermé depuis sa nuit de meurtre sanguinaire originelle.
He's waited for this night. He's waited for me. I've waited for him.
Get out of the room! Get inside!
You don't believe in the boogeyman?
He's here!
Michael! You should.
Derrière la caméra, c'est David Gordon Green, sympathique personnage à qui on doit notamment The Pineapple Express, Your Highness, mais aussi Joe ou quelques épisodes de la très chouette série Red Hawks, on en avait parlé ici même. Son grand ami Danny McBride co-signe le script, et oui, et au casting, outre Jamie Lee Curtis, on trouve Judy Greer, Andy Matichak, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou encore Will Patton, je ne sais pas qui c'est, sachant que le rôle de Myers se partage entre James Courtney et Nick Castle, grand pote de Carpenter, qui était surtout celui qui portait le masque dans le film de 78. Votre avis sur ce Halloween vers 2018, les amis. Stéphane, ne regarde pas comme ça, tu me fais un peu peur.
Le film commence avec une certaine note d'intention. Alors, il y a une scène pré-générique que moi je trouve pas terrible vraiment, et qui introduit deux personnages, comme le film introduit beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages, et malheureusement beaucoup, beaucoup de personnages qui savent pas grand chose. Mais t'as une note d'intention en fait qui est dans le générique en fait, où ils reprennent littéralement le générique
de la nuit des
masques, Carpenter. Oui. Voilà. Sauf que la citrouille. Ratatinée, explosée, elle a pourri, tu vois, et en fait elle se recompose, elle a fondu, elle se recompose devant toi en fait sous tes yeux, comme d'un air de dire que en fait depuis 40 ans il n'y avait pas eu ça, quoi, tu vois, comme si en fait les 6 ou 7 films, 8 films qui avaient précédé en fait ce reboot, suite, remake, voilà, comment dire, ne comptait pas, quoi. Et je trouve que c'est couillu quand tu fais ça, t'as intérêt à suivre, tu vois, et bof. Bien le problème, je trouve, en fait.
Il y a comme bof, même.
Le truc, c'est que si tu te concentres en fait sur ce qui pourrait être intéressant, c'est-à-dire le personnage de Jamie Lee Curtis et ce qu'ils en font, pourquoi pas. Même si là, il y a des défauts d'écriture assez prononcés, je trouve. Hein. Mais bon, moi, étant un grand fan de Jamie Lee Curtis, je suis content de l'avoir là-dedans, dans un rôle un petit peu, comment dire, écrit, un petit peu, je dis bien. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pour moi, hein, j'ai l'impression, limite, un second rôle, en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui va vraiment la concerner, ça va apparaître un peu en filigrane au fur et à mesure du film, un petit peu au début, vraiment, pour la mettre en place et expliquer qu'elle est devenue une espèce de preppers à la Sarah Connor, tu vois. Donc, c'est littéralement ça. Hein. C'est-à-dire que ce qu'ils ont pris, ils l'ont pris de Terminator 2, tu vois, c'est ça. Sarah Connor, tu vois, c'est ce qu'elle est devenue. Et en fait, et à la fin, du coup, sa fille et sa petite fille, quoi. En fait, t'as un gros, gros film au milieu, avec plein de personnages, en fait, qui sont introduits et qui, ma foi, en fait, apparaissent et disparaissent sans que ça serve à grand chose, quoi. Parce que, donc, t'as deux journalistes qui enquêtent sur Michael Myers, qu'est-il devenu, qui c'est cette figure du mal absolue, etc., etc. T'as un psychiatre c'est-à-dire que je me rappelle littéralement pas comment il s'appelle, puisqu'en fait, la nana, elle le regarde, enfin, Jamie Curtis le regarde, il fait, ah, t'es le nouveau Loomis. Tu sais, pour te faire bien comprendre que, comme on n'a pas pu avoir Donald Pleasance parce que, ça fait 30 ans qu'il est mort, en fait, il faut qu'on mette un nouveau mec, tu vois, un nouveau psychiatre.
Joué par un acteur turc, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai pas envie de l'écorcher, acteur turc qui jouait dans la Palme d'Or Winter Sleep.
Ah, ouais. Étonnant.
Je pense pas que celui-là, il aurait la Palme d'Or, tu vois. ni le prix d'interprétation, d'ailleurs. Et le truc, c'est que donc, t'as ce psy qui réapparaît. Et je vais pas spoiler, mais ils en font un truc, mais c'est le borderline ridicule, voire même ils foutent les pieds dedans.
Voilà. Enfin, c'est-à-dire, il sert pas à grand chose. Et puis à un moment dans le film, il a une scène de what the fuck total, voilà. Où tu te dis qu'est-ce qui se passe, quoi.
Et t'as plein d'autres persos. Donc là, le Will Patton, c'est un flic, en fait, qui est celui qui avait, c'est celui qui avait, je crois, qui n'avait pas tué Michael Myers à la fin du premier. Enfin, voilà. Mais le perso est pas dans le premier, hein, c'est juste post premier. T'as t'as des flics dans une bagnole, enfin t'as une scène de 5 minutes avec des flics qui parlent de sandwich thaïlandais, tu vois, où tu te dis mais pourquoi, tu vois, voilà. Et tout ça, j'imagine, pour introduire de la chair à canon, parce qu'il y a quand même des meurtres à planter, des trucs comme ça. Mais en fait, le Michael Myers n'en a pas besoin, puisqu'en fait il tue littéralement gratuitement, à part qui, pour une raison très mystérieuse, il veut retrouver Laurie Strode. Et je dis bien une raison mystérieuse, puisque ils ont abandonné totalement l'idée qui était amorcée dans Halloween 2, que c'était sa sœur. Voilà. Donc, c'est vraiment reboot. C'est-à-dire que les mecs te disent non, tout ce qui s'est passé à la fin du premier, après la fin du premier, c'est niet. On n'en parle pas, quoi. Tu vois, c'est maintenant on repart 40 ans après, quoi. Donc il y a ce truc où il lui court derrière, mais finalement il court aussi derrière d'autres personnes, puisque il va rentrer dans des baraques de manière totalement anonyme, planté, voilà. Alors, de temps en temps, t'as un perso rigolo. Moi, et là, je reconnais pour le coup Danny McBride un peu et ce type de d'écriture. T'as un gamin blague de 12 ans, en fait, qui est un petit peu ordurier, qui est rigolo, tu vois. Voilà, je sais pas si vous connaissez ce mème sur internet avec Hello Motherfucker, le gamin qui dit Hello Motherfucker, tu sais, comme ça. Ouais, on dirait ça, qu'on dirait ce gamin-là pendant 5 minutes, tu vois. Donc, c'est marrant. Ça n'a littéralement rien à foutre là. Oui. Donc voilà. Et globalement, en fait, pour vraiment faire un sentiment résumé de ça, et je vais laisser parler mes amis, le Carpenter était un film écrit juste ce qu'il faut, littéralement ce qu'il faut, pour en fait bâtir sur une mise en scène de cinéaste, quoi. C'est-à-dire vraiment une mise en scène du suspense extrêmement poussée, où il jouait vraiment en fait sur les bords cadres et sur les trucs comme ça pour te demander où est-ce qu'elle est, justement The Shape, quoi. C'est comme ça qu'il s'appelait, Michael Myers là. Et en fait, donc, c'était supérieurement réalisé sur un scénar finalement assez classique, mais comment dire, tout à fait fonctionnel. Ça, c'est beaucoup trop écrit et pas assez réalisé. Et en soi, en ça, j'ai du mal à considérer que c'est ce que certaines personnes ont dit, le meilleur remake qui ne dit pas son nom, en fait, d'Halloween, quoi.
Arnaud ?
Écoute, moi, c'est plus... Bon, je l'ai vu là, ces jours-ci, le film, mais plus le temps passe et plus je trouve que c'est vraiment de la merde, quoi.
Ah, oui.
C'est-à-dire, après, David Gordon Green, c'est quelqu'un qui, pour moi, à l'exception de Joe, qui était un film très touchant, est un gars qui, je pense, a du talent, mais pas suffisamment pour arriver à faire un film digne de ce nom, quoi. J'ai toujours eu des problèmes avec ses films. Enfin, il n'en a pas fait 15 000, hein, mais en l'occurrence, Pineapple Express et Your Highness.
Your Highness, c'était vraiment...
Ah ouais. Terrible. Non, mais je pense que c'est quelqu'un. Alors peut-être qu'il est mieux fait pour le drame que pour la comédie, je ne sais pas.
L'autre rive, c'était un drame, c'était bien.
L'autre rive.
J'ai pas vu ça.
C'était pas mal.
Ok, je suivrai ton conseil.
C'est à la fin, les recos, Alexandre. Pardon.
Mais donc voilà. Donc le problème que j'ai avec ce film, c'est que. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que dit Stéphane. C'est que. Peut-être sinon que pendant tout le film, je me demandais ce que je foutais là, ce que foutaient les personnages dans ce film. Parce que même Jamie Lee Curtis, effectivement, elle est caractérisée à coup de marteau pilon, quoi. C'est très. Alors effectivement, ils reprennent ce schéma de survivaliste à la Sarah Connor, tout ça. Mais bon, enfin, c'est une mère. C'est une grand-mère et une mère instable qui déboule un moment au resto à moitié bourrée, qui provoque le beau-père. Enfin, c'est des trucs de vaudeville, quoi, en fait, et où on lâche la caractérisation qu'on avait amorcée pour verser, je trouve, dans du remplissage. Ce qui est étonnant, par contre, c'est que je trouve que c'est effectivement assez merdique jusqu'au dernier quart d'heure. Et que là, le dernier quart d'heure, en fait, ils ont gardé toutes les idées qu'ils ont eues, je pense, c'est original. Il y a une sorte de... tous les personnages qui ont précédé, on s'en fout, effectivement, ce que tu disais, c'était de la chair à canon. Et il y a une sorte de où ils ramassent la tragédie dans un lieu unique avec trois personnages féminins qui sont, je spoil pas en disant ça, mais qui sont donc la grand-mère jouée par Jamie Curtis, sa fille et sa petite fille. Ouais. Et avec Michael Myers. Et là, il y a une sorte de truc. Moi, en y repensant, je me disais, ça fait penser un peu. Il y avait une sorte de remake horrifique sur un quart d'heure, hein, mais des proies de Don Siegel oui. avec Clint Eastwood. Hein.
Et, c'est de Sofia Coppola, tu dis
Don Siegel, c'est d'abord. Et en fait.
Déconne, ça va.
Non, mais les gens comprendront mon allusion, pourquoi oui. je dis ça, quoi, quand ils verront le film, parce que je veux pas spoiler la fin. Et en fait, pendant un quart d'heure, là, c'est-à-dire tout ce qu'ils n'ont pas fait avec ces personnages-là pendant le film est traité. Il y a quelque chose d'original qui est en train de se passer à l'écran. Et voilà, c'est assez curieux parce qu'moi, j'ai pas souvent éprouvé ça. Avant d'arriver à ce moment-là, j'avais presque décroché, quoi. Et puis d'un coup, je me dis, tiens, bah voilà, le film, l'histoire qu'il voulait raconter, quoi. Après, je terminerai là-dessus pour tout ce qu'il y a autour de la mythologie de Michael Myers, c'est en fait, on a presque l'impression que malgré effectivement ce générique très prétentieux, ils n'ont pas du tout compris ce que c'était qu'Halloween, quoi. Est-ce qu'était le personnage de Michael Myers de John Carpenter. C'est-à-dire, on le suit constamment. Il y a quelques plans où ils arrivent à toucher ça, quoi. Mais moi, je sais que c'était dans la bande-annonce, j'avais ce problème avec ce plan où on le suit en plan séquence de dos. Il rentre comme ça dans une arrière-cour, il va vers un atelier. Et en fait, quand il rentre dans la cour intérieure, il donne un coup de tête à gauche.
Même pour voir si on le voit pas.
Voilà. Ou voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le menacer. Mais ça, c'est pas Michael Myers. Michael Myers, c'est
il voilà, va tout droit.
C'est on traverse les allées d'Adonfield comme ça en scope là, et puis d'un coup on se dit, hey, qu'est-ce que j'ai vu là? Et il y a une silhouette toute droite comme ça qui est dressée derrière un buisson. C'est ça Michael Myers. L'originalité de ce personnage, en fait, contrairement à tous les autres boogeymen qui ont surgi, c'est que Carpenter, il a construit une figure maléfique uniquement par la mise en scène, quoi. Et donc ces trucs là. C'est assez gênant parce qu'en fait, alors je vois le côté immersif, machin, bidule et tout, mais en fait, c'est déconnecté de l'ADN du personnage, quoi. Voilà.
Alexandre.
Alors, du coup, c'est moi qui vais jouer le rôle du défenseur, mais sans me forcer trop en plus, parce que
c'est des good shots.
Oui, voilà.
dis-le.
Ah, c'est établi de longue date.
Non, mais en vrai, je suis assez fasciné par ce produit qu'on nous sort, que Universal nous sort là pour les 40 ans du film. Ils auraient pu se contenter de faire voilà une sortie Blu-ray exceptionnelle, machin, etc. Non, ils font un film, tu vois. Et c'est quand tu regardes un peu la genèse de ce truc là, en fait, je parle d'accident parce que c'est complètement zinzin qu'on ait ce film là maintenant. C'est David Gordon Green et putain de Danny McBride et leur pote troisième Larron.
Ça se voit que c'est écrit par Kenny Powers, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais et c'est produit par Jason Blum qui est voilà Blum House, c'est le nouveau Roger Corman, toute proportion gardée, qui fait les Paranormal Activity, les American Nightmare, les franchises, etc. Donc c'est le fiston du producteur original, dont je n'ai pas envie d'écorcher le nom, qui récupère les droits, enfin qui a les droits, qui récupère avec Blum House, qui a un contrat universal. Lui, il va chercher David Gordon Green, et quand Blum House, ils ont les droits, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils veulent faire un nouvel Halloween, mais ils ne savent pas si ça va être un reboot façon Rob Zombie, si ça va être une suite alambiquée sans Jamie Lee Curtis. Et c'est petit à petit que les mecs arrivent d'une part à se dire bon, bah, en fait, il faudrait faire table rase, il faudrait faire une suite, mais on oublie tout ce qui s'est passé après le premier de 78. Et ils arrivent à convaincre Carpenter de regarder un coup d'œil rapide.
Oh, ça, c'est bien comme ça.
Oui, bien, oui, évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'il a juste regardé.
Je me rappelle entre deux parties de quand Metal ils ont Gear fait Solid, l'annonce, mais... les gens étaient là, putain, il y a Big John qui revient.
Il faut être lucide.
Stéphane avait eu employé l'analogie d'une manette de PlayStation à la main en disant ouais, c'est super.
Mais il avait raison. raison, je pense que c'est comme ça. Non, mais une manette ou un synthé, parce que c'est la musique,
parce que,
c'est
voilà,
la musique,
y a la musique
donc
quand
il
même.
A fait voilà, il a refait un petit thème machin ça, mais que Carpenter, que Curtis soit présent et que finalement on ait une vraie suite d'Halloween 40 ans plus tard, c'est en soi soit un miracle, soit une catastrophe, selon de quel bord on se situe, tu vois. Mais
il faut prendre parti là.
Voilà,
allez,
prendre...
allez,
mais
allez,
non mais
mets tes couilles sur la table.
Vraiment, je trouve que vu tout ce qui aurait pu mal se passer, je trouve que c'est quand même. Moi, je trouve que c'est un petit miracle. Voilà, on arrive à avoir des scènes qui sont bon, il y a. Tout à l'heure, j'entendais mes camarades rager sur le côté chair à canon, personnage inexistant dont on se fout. Et je suis d'accord avec eux. Moi, j'ai revu Halloween 1 et Halloween 2 avant de revoir le Halloween version 2018. Je suis désolé, mais à part Laurie Strode, tu te souviens d'aucun des putains de personnages.
Regarde, j'ai un radar à bullshit et là, il y a beaucoup de bullshit.
Non,
on parle de persos qui rentrent dans l'intrigue et qui ressortent littéralement. Le gamin black dont je parle, il se passe quoi? Il descend les escaliers, il disparaît. Littéralement. C'est-à-dire qu'en
mais
fait, en gros.
Plus
il y a très peu de morts dans Carpenter.
Il ne sort pas. C'est des persos qui ne servent à rien. C'est des persos qui servent à avoir une scène qui littéralement n'a rien à foutre dans ce genre de film-là. C'est-à-dire, faut être honnête, c'est ça le truc.
Alors, dans l'original aussi, on avait des comme ça.
Laissez le
à ce
finir.
Point de digression,
dans l'original. Je pense que dans l'original qui est excellent et qui est voilà, insurpassable, mais dans l'original, il y avait aussi, mine de rien, ce côté
tu préfères ce
personnage.
Dis-le, tu préfères ce film.
Dis-le, David Gordon.
Il est meilleur.
Quelle bande de putain de nazis.
Mais c'est rien du tout. Putain, ça va pas commencer. C'est toi qui te fais traiter de nazi sur Twitter. ça suffit maintenant les conneries quoi.
Non mais bon,
stop, on s'éloigne
voilà,
du sujet.
Juste pour dire que moi il y a plein de choses qui m'ont titillé ou dérangé dans le film, mais j'ai trouvé que ils arrivaient quand même à la fois à rendre justice ou à rendre hommage au Carpenter et pas uniquement par des clins d'œil faciles ou du fan service, etc. Bon, ils sont aidés évidemment par la présence de Jamie Lee Curtis, mais ils ont réussi à moderniser le truc. C'est-à-dire que des trucs aussi cons que l'alibi scénaristique qui ouvre le film et qui te permet, pour les gens qui connaissent pas la franchise, de connaître un petit peu dans quel univers on se trouve, ils ont clairement imaginé. En fait, c'est deux documentaristes anglais qui font un podcast et sur l'affaire Michael Myers, et c'est inspiré par Serial, le film qui a voilà refait le renouveau du podcast à l'américain sur les true crimes, machin. On rouvre une affaire, on essaie de dénicher dans les archives un truc qui aurait pu déconner, etc. Et donc c'est un truc hyper contemporain, hyper actuel, machin, etc. Mais qui est embrassé de manière à pas trop. Voilà, on s'appesantit pas dessus. Les mecs, ils auraient pu être des écrivains, ils auraient pu être des journalistes, on s'en fout. Et tout ça, ça remet en place la mythologie. Tu comprends très rapidement, ils te font savoir que non, ils sont pas du tout frères et sœurs, hein, ça c'est des conneries, machin. Donc tu sais que tu fais table rase du passé assez rapidement. Et je vais pas me pesantir dessus, mais parlons purement des trucs qui sont voilà, du côté body count, meurtre, gore, etc. J'avais pas vu au cinéma depuis assez longtemps non pas forcément des meurtres en tant que tels, mais des hécatombes, des résultats de mort, on va dire, aussi traumatisants depuis Belle Lurette. Enfin, je veux dire, la scène est vaguement spoilée par le trailer.
Ah, les gamins, quoi.
Non, mais la scène est vaguement spoilée par le trailer, mais il y a effectivement une histoire de dents dans les chiottes d'un routier obscur, où t'as toute la mâchoire, finalement, d'une victime de Michael Myers qui.
T'as jamais vu de film de cannibale italien des années
70? Mais si, non, mais je parlais de trucs récents. Non, je parlais
excusez-nous
de trucs récents.
D'être nés dans les années 80. Hein, les
je
enfants,
parlais de trucs récents.
On n'a pas tous 70
ans. Le film s'autorise quelques percées. Le film s'autorise quelques saillies, quelques visions qui sont parfois dévoilées. C'est un faux cadavre fait par, je ne sais plus comment s'appelle, le responsable des effets spéciaux. Et il est dévoilé au hasard d'un travelling où tu vois la gueule du mec littéralement sur deux étages. Bon, c'est plaisant.
J'ai vu le film à côté d'un type qui m'a profondément agacé parce que le mec il sursautait à tous les jumpscares, ce qui veut dire en fait,
c'était moi.
Non, c'était pas toi justement, parce que toi je t'aurais tapé sur l'épaule et je t'aurais dit allons, qu'est-ce qu'il y a Alex, tout va bien, t'inquiète, tu vois.
J'ai été
ce n'est que des dents, les tiennes sont encore là, t'inquiète pas. Mais et en fait il m'énervait prodigieusement le pauvre gars, parce que en fait fondamentalement il me signalait tout ce qui ne fonctionnait pas sur moi, c'est-à-dire les jumpscares, et il y en a pas mal quand même, mine de rien.
Je suis d'accord, là pour le coup je je peux vous rejoindre. Effectivement, ça, il y a un petit abus, Voilà. Il n'y a pas de violon, il y a pas.
C'est une maladie du film d'horreur moderne.
C'est une maladie du film Blumhouse surtout, tu vois. Et le truc,
parce que dans Carpenter, il devait y en avoir un ou deux à tout casser
encore. Et le truc, en fait, c'est que le problème, indépendamment de ça, c'est que là, moi, je pense que ce film, au moment où on enregistre, en fait, il n'est pas sorti aux États-Unis. À mon avis, il va cartonner. Cartonner. Mais je pense.
Ce qui me fait d'ailleurs peur, parce que je pense que le truc devait être le chant du cygne d'Halloween. Enfin, pour moi, ça devrait être ça. Mais
ça n'a pas été pensé comme ça. Il était prévu qu'ils fassent deux films tournés l'un après l'autre. Ils ont préféré attendre de voir la réception.
Ouais, sauf que t'as Carpenter qui dit derrière qu'il faut pas,
ça.
Que oui, lui sûr, veut pas, mais lui voulait déjà pas faire Halloween 2 à l'époque.
De toute façon, il voulait pas d'Halloween 2 en 81.
Voilà, c'est ça. Donc le truc, c'est qu'on se retrouve dans tout, dans un espèce de comment dire, de film pour moi qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut être, parce que ce truc des podcasts avec des gens qui font le truc pour réintroduire la mythologie de Michael Myers, comme ça disparaît au bout de 20 minutes, juste parce qu'en fait ça n'a sert qu'une fonction, si tu veux, et que d'un seul coup on se retrouve sur d'autres persos, notamment ce fameux psychiatre turc, grec, je sais pas qu'est-ce qu'il est, mais tu vois, mais voilà.
Non,
mais
c'est toi qui es grec.
Mais il parle un peu comme un grec, tu vois, donc c'est pour ça.
Mais ils n'allaient pas nous faire une voix off au générique ou un truc, un défilant à Star Wars, genre épisode 2.
Et franchement, en toute honnêteté, moi je veux bien une voix off et t'enlèves 20 minutes. Comme ça, si tu veux, 20 minutes de perso qui servent à rien. Et le problème, effectivement, se concentrer sur ce que t'es venu voir, tu vois, à la base, parce que c'est la suite d'Halloween, c'est pas un reboot, c'est pas un remake, c'est pas un machin. C'est-à-dire la continuité que eux nous promettent de l'aventure de Laurie Strode.
Te concentrer sur ce que tu n'es pas venu voir aussi. Parce que c'est ça, moi c'est ça qui m'a troublé, quoi, dans les 15 dernières minutes, c'est que le truc propose des vraies idées, quoi. Et tu te dis, putain, mais c'est dommage d'arriver à ce moment-là du métrage et de vider toutes ces cartouches là au dernier moment, comme ça, après avoir rien foutu pendant les deux tiers du film, quoi. Parce que quand je dis proposer quelque chose que t'as pas vu, c'est ça, quoi. Je veux dire, tout ce qu'on voit avant, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Alors peut-être un poil mieux shooté, tu vois, que dans Halloween Résurrection, par exemple, tu vois, qui était un film d'une purge atomique, tu vois.
De Rick Rosenthal.
Mais au moins quelque chose de neuf, un peu, tu vois, quoi.
Le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, le truc, c'est que tu te retrouves avec un espèce de truc où ils te promettent, en fait, de respecter la mythologie originale, sachant que le truc d'Halloween, c'est que ça a été un carton atomique à l'époque. C'était le plus gros film indépendant, le plus gros carton du cinéma indépendant jusqu'à Blair Witch, en fait. Donc pendant 20 ans, le truc a gardé ça.
C'est le film le plus rentable.
Voilà, et le truc, c'est que c'est un film qui est resté, mais c'était quoi, en fait, Halloween ? C'était un one-shot d'un réalisateur, en fait, qui carrément s'inspirait littéralement de Psychose et qui se disait, je vais faire mon Psychose à moi, je vais faire mon truc avec les moyens que j'ai, avec le truc. Et le coup de génie, qui est un coup de marketing, hein, c'était Mustapha Akkad qui avait décidé d'appeler le film Halloween. Oui. Tu vois, parce qu'à la base c'était The Babysitting Murders ou Babysitter Murders ou je sais pas quoi, voilà. C'était vraiment un truc assez simple, assez machin, assez basique même quelque part, mais rehaussé par le pur talent et génie de Big John et son travail avec Dean Cundey et tous ces trucs-là et comment les mecs ont fonctionné. Là, le problème, c'est qu'il y a un problème de fétichisme, moi, je trouve, dans ce film, qui est extrêmement déplacé parce que, alors, il y a deux acteurs qui jouent Michael Myers, tu vois, oui. Et donc, t'as un, je sais plus qui c'est qui le joue quand on voit plus ou moins son physique, quoi. Et t'as quand il est The Shape. Sauf que d'un seul coup, en fait, il perd 40 kilos.
Bah oui.
C'est à l'écran. Et d'un seul coup, le mec, il est devenu svelte et c'est Nick Castle, tout ça, parce qu'il fallait prendre Nick Castle, parce que c'est Nick Castle qui joue dans le premier, quoi. C'est du fétichisme déplacé pour moi.
C'est ça, le postulat même du film, c'est ce que je disais au début, ce côté improbable, comment le cheminement a fait qu'on a ce film qu'on a en face de nous, c'est que, dans l'absolu, pouvoir se permettre de rayer, alors, la saga Terminator l'a un peu fait par le biais complètement foireux du voyage dans le temps, dans le dernier Genesis, etc. Mais se permettre de rayer d'un trait toute une franchise, toute
c'est
une
à la
saga,
mode, hein.
c'est à la mode, mais c'est quand même.
Mais surtout, c'est à la mode dans Halloween. C'est constitutif même d'Halloween, puisque ça a déjà été fait.
Oui, oui, ils se permettent de faire finalement ce qui a déjà été fait, mais là, c'est quand même un gros morceau qu'ils enlèvent. Et en fait, c'est quelque chose qui, pour l'instant, à mon sens, c'était quelque chose de réservé au fanfiction. Et en fait, mine de rien, David Gordon Green et ses copains co-scénaristes, ce sont des fans. Ils ont découvert Halloween quand ils étaient adolescents, etc. Oui. Et ils sont arrivés, bon, c'est pareil que J.J. Abrams sur Star Wars et d'autres gens comme ça, on est arrivé au moment où les fans ont pris le pouvoir de manière générationnelle, machin, etc., à Hollywood, et ils arrivent à proposer des trucs dont ils auraient pu avant se branler sur des nouvelles faites sur leur blog, tu vois. On dirait qu'en fait, finalement, bon, bah, ce serait pas le frère et la sœur, et voilà. Et du coup, non mais du coup, on
meilleure imitation
écrire un espèce de Fifty Shades of Grey, mais avec Halloween, tu vois.
Fifty Shades of Michael.
Non mais, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, coup, on se retrouve dans cette situation-là où j'ai envie de donner le bénéfice du doute à ceux qui ont créé le truc. Je pense qu'il y a beaucoup de cynisme derrière de la part des producteurs, de la part d'Universal, machin, etc. Mais en vrai, ils ont quand même tourné le film en moins de 30 jours. Je crois qu'ils ont tourné le film en 28 jours. Ça n'a pas été fait dans des conditions complètement... J'arrive pas à savoir si le film qu'on a actuellement et qui va sortir en salle est exactement la compie conforme de ce qu'ils avaient envisagé dès le départ. Je suis un petit peu gêné, je ne veux pas spoiler trop, mais par le fait, comme on l'a dit, que effectivement, ça pourrait ne pas être la totale conclusion définitive.
C'est
du
pas
truc.
Prévu comme ça.
Voilà, mais moi je pense qu'ils auraient tout intérêt à vraiment boucler la boucle et à dire on en parle.
Le problème, je pense, c'est que ces films-là, là, quand je dis ces films-là, je parle des films d'horreur comme ça en général, on a droit à des remakes, des reboots, des machins comme ça. Je pense que tu peux arriver à rebooter le truc ou à proposer des choses un peu plus neuves. Tu peux arriver à le faire plus facilement quand tu pars d'un truc comme... moi, j'aime bien, par exemple, La fiancée de Chucky, quand tu pars d'un film de merde.
Oui.
Le problème, c'est
Chucky
que...
Chucky revient, hein, d'ailleurs.
Voilà. Ouais, oui.
Ils font un remake, là, pour le coup, c'est un remake. Avec Aubrey Plaza, donc ils ont le droit, parce que c'est Aubrey Plaza.
Le problème, c'est que là, on a une borne du cinéma d'horreur, comme il y en a peut-être... Allez, 4 ou 5, quoi. Psychose, Massacre à tronçonneuse, trucs comme ça. Et de toute façon, donc, on a quoi qui se passe, qui tente de faire des suites, qui tente de faire des reboots complets comme le Rob Zombie, qui a certaines qualités, mais qui a raté aussi, qui fasse là comme ils font avec le dernier. En fait, qui tente de s'en extraire ou pas. De l'influence du premier, ils n'arrivent jamais à sortir de l'orbite du premier parce que le truc, il est là au milieu du paysage et il les écrase.
C'est le problème même chez Carpenter de manière très très spécifique, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, là, le film s'appelle Halloween, comme tu l'as précisé au début de l'émission, et le truc, c'est qu'en fait, quand on va tous parler entre nous d'Halloween, on va dire mais tu parles duquel en fait à la fin, parce que
c'est le troisième
déjà...
qui s'appelle Halloween, hein, parce que le Rob Zombie s'appelait déjà
exactement,
Halloween.
Mais c'est un remake pour le coup, c'est cohérent, tu vois. Mais le truc, c'est que c'était comme The Thing, c'est-à-dire The Thing, les mecs, ils font une préquelle de The Thing, et en fait, ils l'appellent The Thing aussi, donc du coup, d'un seul coup, tu veux, en fait. Donc ces films, en fait, quelque part, j'ai l'impression qu'ils sont voués à disparaître.
Oui.
C'est-à-dire, ils sont voués à se disparaître dans l'ombre de Carpenter de base, parce que de toute façon, Carpenter, on le dira jamais assez, hein, ça aurait dû être Steven Spielberg, ce mec. Il aurait dû avoir cette carrière-là, il aurait dû avoir ce niveau stratosphérique, en fait.
Il ne devrait pas faire du synthé.
Voilà, non, mais c'est parce que c'est un vrai putain de génie, et sa carrière, elle a shifté au moment où, justement, ses films se sont fait arracher la gueule, des films comme The Thing, des films comme Jack Burton, tout ça. Et le truc, c'est que. C'est malgré tout, tous les gens en fait voient bien la manne, parce qu'il a quand même une manne énorme en fait qu'il a créé entre 77, 76 et 2001, tu vois, et notamment en tout cas tous les films des années 80 où les mecs reviennent et se disent bon, on va faire un remake de The Fog, on va faire un remake d'Assaut, on va faire un remake de, et tous ces films là en fait ils disparaissent au fur et à mesure derrière, voilà. Là, le seul truc que les mecs pouvaient faire, c'est de dire bon, on va essayer de faire une suite directe parce que tu vois, on est emmerdé, tu vois, parce qu'on sait pas comment faire. Mais même là, en fait, si tu veux, tu te dis bon, bah c'est ce que Halloween H20 a fait, hein, il y a 20 ans. Et fondamentalement, si tu veux, bah, moi j'aime pas Halloween H20, hein, mais ça ressemblait un peu plus, on va dire, à un slasher like, tu vois. En fait, voilà, là c'est vraiment un espèce de truc soit méta, soit soit tarantinesque par moment, soit tu vois.
Halloween H20 avait cette particularité aussi d'être presque motivé par le succès de Scream, et Kevin Williamson avait participé.
Totalement, bien sûr.
Ouais,
mais non, mais c'est de la merde. Hein. Ouais, je suis pas en train de te dire que c'est bien.
J'ai eu peur. Le réalisateur de Solman, quand même, quoi.
Et Forever Young. Donc le truc, c'est que tu vois, on peut pas. Enfin, je suis pas en train de dire que c'est un bon film, mais par contre, si tu veux, je comprenais beaucoup plus le projet à ce moment-là que je ne le comprends ici. Oui. Et là, le truc, c'est qu'effectivement, il y a ce dernier quart d'heure, il y a Jamie Lee Curtis qui est super dans le film, quoi, voilà.
C'est parce que c'est
voilà, et qui joue son âge, qui, tu vois, etc., etc. Donc il y a ces trucs-là. Il y a, faut le dire aussi, parce qu'on n'a pas parlé.
Granny.
La Gil.
Non mais Gil.
Non,
voilà. non. Stop. Alors, stop. Ah, c'est mes cerveaux qui me contaminent avec ces conneries
stop
là.
Stop
tout
de suite.
Et il y a la musique de Carpenter.
Bien sûr.
Et qui est plutôt bien, moi je trouve qu'elle est plutôt chouette,
évidemment.
En fait. Non mais évidemment, c'est pas gagné d'avance, tu vois. Moi je trouve qu'elle est plutôt.
T'as pas écouté ses derniers disques? Ils sont vachement bien.
Si, je les ai écoutés, ses derniers disques. Et il y a des trucs que j'aime beaucoup dans ses derniers disques, il y a d'autres trucs un peu moins bien. Et même dans certains films qu'il avait fait, moi par exemple, même si j'adore Carpenter, la zig de l'âge des damnés. Chou patate,
ouais,
quoi.
Bon,
tu vois, c'est pas terrible. Donc le truc, c'est que, tu vois, il y a des moments où ça marche, ça marche pas.
Oui.
Mais le truc, c'est que là, en fait, si tu veux, ça aurait pu être juste, en fait, une. Et c'est dans la mouvance de ce que c'est. Mais pour moi, ça rend beaucoup plus hommage au premier Halloween que le reste du film, en fait, si tu veux, avec par sa musique. Donc voilà. Et.
On aura un futur remake dans 20 ans avec Jamie Lee Curtis.
C'est ça le truc, en fait. C'est qu'en fait, ils peuvent tout refaire s'ils veulent.
Ça sera Mamie Tromblon contre.
Ils peuvent tout refaire s'ils veulent, quoi.
Mais même Michael, là, moi j'ai calculé en fait au début du film, je me suis dit, attends, mais alors t'as 6 ans plus 20. Quand, attends, mais alors il a quel âge? Il a 70 ans là. Bon, je suis arrivé à 61 ans, mais je me suis dit, putain, il commence à accuser le coup là quand même, Michael.
Bah, écoute,
pourtant il se déplace comme une petite danseuse gracile et svelte.
On n'est pas tous égaux face à la vieillesse, à la sénescence, Arnaud, tu
qui
sais.
Qui vous dit que je suis un homme?
Qui vous dit que je suis un homme? Mon Dieu, Alexandre, tu vas beaucoup trop loin. Très bien, très bien, très bien. Avant de se quitter, chers amis, on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations à destination de nos amis auditeurs. Alexandre, au lieu de regarder ton téléphone,
ah ben si je regarde mon téléphone juste pour ne pas répondre à Daniel Schneiderman, s'il te plaît.
Alors, je vais recommander très rapidement un film avec Jamie Curtis qui date de
Halloween
81.
78.
Non, qui date très de 81 bien. Que j'ai découvert récemment parce que je suis normalement Inch'Allah, je croise les doigts, mais je dois l'avoir rencontré dans peu de temps.
C'est vrai.
Faire son portrait bien dans l'hiver. Donc je suis tout excité. J'ai fait plein. Je me suis retapé du coup plein de films d'elle que je n'avais jamais vu, notamment toute sa partie slasher des années 80. Et dans la série de films, donc j'avais jamais vu Prom Night, j'avais jamais vu Terror Train, etc.
Ah oui,
Monstres du train. Bon, qui sont assez oubliables en fait. Hein. C'est pas la folie. Hein. Mais dans la série de films qu'elle a fait post Halloween, il y a une perle dont j'avais jamais entendu parler qui se trouve, et c'est un film australien qui s'appelle Road Games, en français Déviation Mortelle, par Richard Franklin, quoi, réalisé Patrick, et c'est un film totalement improbable sur Stacy Keach.
J'aime bien comme voilà. Il dit qui a réalisé Patrick, comme si on savait ce que c'était.
Ah bah, enfin, on sait ce que c'est, on l'a vu, c'est ça, Patrick, bien sûr. Mais tu sais, on a 42 ans, hein.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Et donc
moi 70,
oui, Patoche, vrai, 70, comme ils l'appellent eux. Non mais Road Games, pour la faire rapido, c'est l'histoire d'un camionneur américain qui fait le tour de l'Australie et qui voilà, balance de la viande. Et il y a un tueur en série qui s'attaque à des femmes qui sévit en Australie et tout. Jamie Lee Curtis joue le rôle d'une autostoppeuse que le camionneur prend en stop. Et je ne vais pas en dire plus parce qu'en plus, bon, l'histoire n'est pas forcément, enfin, il n'y a pas de rebondissement particulier à dire, mais il y a une ambiance avec des cadrages, un humour noir et une folie ambiante totalement. Enfin, c'est de la exploitation assez barrée. Je ne sais pas comment Curtis et Stacy Keach d'ailleurs s'étaient retrouvés en Australie sur ce projet-là, mais trouvez-le. Il est trouvable en Blu-ray, en DVD, en torrent. Road Games 1981, Zinzinerie.
Très bien. Pas en torrent, Arnaud.
Alors, le meilleur film de Jamie Curtis, ça reste quand même Perfect.
Un fauteuil pour deux.
Non, Perfect.
Non, c'est un fauteuil pour deux.
Ah non, non, tous les
c'est
les
un fauteuil pour deux. Les amis du, on la voit
les amis du lycra moulant et des couilles de Travolta ballottantes me comprendront.
Il y a True Lies aussi. Bon, ça y est, il y a les deux.
C'est vrai qu'il y a une très belle scène dans True Lies.
Il y a une très belle scène dans True Lies. C'est vrai. Dans l'hôtel. Arnaud.
Non, moi je.
Do It Slowly.
Oui.
Comme j'en ai un peu plein le cul de tous ces films de Boogeyman qui. Les Freddy, les Jason, les Michael, j'en ai marre.
Les Jason et les Argonautes.
Parfaitement.
Oui.
Et donc j'ai envie d'y arrêter. J'en peux plus tout ce film. Ouais, on parlait de Chucky et trucs comme ça. J'en ai ras-le-bol. Ouais. Alors je vais conseiller le meilleur film de Boogeyman de cette dernière décennie. C'est Don't Breathe de Fede Alvarez, qui est un à l'instar du Carpenter, un vrai film de Boogeyman mis en scène, un vrai film de metteur en scène. Parce que le pitch en lui-même, c'est un trio de marlous, deux mecs et une nana qui investissent une baraque pour la cambrioler en pleine nuit, en sachant que son occupant est un aveugle. Un vétéran de guerre aveugle et qui vit dans un quartier totalement délaissé, voilà. Et manque de peau, ils vont tomber sur un taré, quoi. Voilà. Bon, c'est assez basique, quoi. Mais il faut voir le film, quoi. C'est un film, c'est une véritable montagne russe basée sur des remises en question régulières de l'environnement dans lequel évoluent les personnages, qui préparent tout le temps des surprises, des choses trappes. On a des scènes et qui synthétisent à peu près tout le cinéma d'horreur des dernières décennies, quoi. C'est-à-dire à chaque scène, quoi. Il y a une scène en vision. On est de nuit dans la cave. Après, il y a des scènes dans les coursives très claustrophobes, dans les coursives d'aération de la maison. Il y a des personnages très bien écrits, aussi très touchants. L'héroïne, notamment, et son destin, ce qui lui arrive à la fin du film. Le Boogeyman est très effrayant. C'est Stephen Lang, le colonel Quaritch de Avatar qui l'incarne. Voilà, moi, j'attends avec impatience. Il sort bientôt le nouveau film de Fede Alvarez, qui n'aura rien à voir, parce que c'est une sorte de reboot de Millennium. Je trouvais que même s'il était un peu vain, son remake Devil Dead qui avait précédé Don't Breathe était quand même intéressant visuellement, et c'est quelqu'un que en lequel je crois beaucoup, et voilà, Don't Breathe, si vous voulez voir un vrai putain de film de Boogeyman moderne et original, allez voir ça.
Oui, assez traumatique dans mon souvenir. Stéphane.
Alors moi, je vais aller littéralement à l'inverse du truc. J'ai très deux bien. Petites recos. Ouais. Alors très rapidement, moi, évidemment, Michael Myers n'existe pas. Non, mais je veux dire, Michael Myers, c'est le premier Carpenter et basta pour moi. Ouais. Ceci étant dit, si vraiment en fait vous devez vous taper un autre Halloween, moi celui que je conseille, c'est pas un très bon film. Mais c'est un film extraordinairement déviant. Non, c'est le H2. La suite du remake de
Rick Rosenthal.
Non,
de Rob Zombie.
Ah oui, d'accord.
Voilà, oui. Qui l'a fait très très rapidement. En fait, c'est un film qui.
2009.
Il voulait pas faire, il s'est retrouvé dessus parce qu'en fait, il avait pas réussi à lancer son projet à côté. Donc en fait, le studio l'a rappelé. Je crois que c'était
nos amis.
Nos amis Bustillo et moi qui devaient le faire et qui se sont fait débarquer, malheureusement pour eux. Mais eux sont très contents parce qu'ils adorent le film. Et c'est ce Halloween 2, quoi. Et enfin, à la fin, ils sont très contents, je veux dire. Pas sur le moment, je pense. Mais c'est un film qui est complètement. Branque, c'est-à-dire c'est vraiment tu vois que le truc a été écrit, c'est un film qui a été écrit, tourné, monté en 6 mois littéralement. Et en fait je pense que c'est littéralement une projection du mois de Rob Zombie dans le Halloween, tu vois. Donc c'est complet, enfin c'est bourré de visions complètement dantesques, aberrantes et tout, c'est bourré de meurtres hyper brutaux, hyper violents. Il faut surtout pas qu'Alexander Arvo le regarde parce que je pense qu'il va.
J'aime beaucoup.
Voilà, il va pleurer, quoi. Et c'est pas des dents de mémé qui tombent par terre, quoi.
Non,
tu vois,
c'est un peu plus dégueu.
Dégueu. Et il y a, moi, je trouve là quasiment une des seules idées qui valait le coup vraiment d'être reprise, tu vois, dans ce Halloween dont on a parlé ce soir, qui est le masque du clochard Michael Myers, c'est-à-dire le masque pété, fendu, ridé, vieilli, tu vois, qui vient de là, en fait, qui vient de Halloween 2, quoi. Donc il y a ça. Et après, bon, moi, j'ai toujours été un peu team Jason, tu vois. Donc, s'il y a un Jason que je vous conseille, que j'aime bien, moi, parce qu'il est bien gore, bien débile, bien violent, c'est Jason va en enfer. La version uncut. Où Jason tel un body snatcher.
Jason n'est plus Jason.
N'est plus vraiment Jason. Et en fait, par contre, c'est hyper gore, hyper violent, c'est hyper mal branlé. Hein. C'est réalisé par machin. Enfin, c'est Adam Marcus, il avait 23 ans, je crois, à l'époque, ce jeune réalisateur, quoi. Mais c'était, je trouve, bonne, malgré le fait qu'on voit pas vraiment Jason, une bonne représentation du personnage.
Moi, j'aime
parce
bien
que
celui
c'était bien
dans
brutal. C'était rigolo, mais c'est
si
pareil, c'est un peu Z.
C'est
un peu Z aussi. Moi, j'ai essayé de l'en voir. J'avais bien aimé à l'époque. Hein. J'avais même fait une bonne critique, je me rappelle, dans un magazine dont on ne citera pas le nom. Mais, c'est quand
Maison et Jardin.
Voilà, Maison et Jardin. J'ai revu des bouts, j'ai fait ouh, ah, c'est un peu bizarre. Il ne faut peut-être pas que je revoie Jason Van en faire, en fait.
C'est peut-être ça. Mais bon. Mais
c'est trop tard, la reco est faite.
C'est
de la merde.
Pas du tout. C'est faux.
Tu parles pas de Jason comme ça.
Jason Voorhees.
Jason Voorhees.
Que le fils à Cosmatos pour faire des clins d'œil à ça maintenant.
Très bien. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Julien, la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
Binge.
Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.